BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Fabien Guez.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. Ils fêtent tous les deux leurs 25 ans et ça tombe bien car ils ont décidé de collaborer sur le développement de nouveaux médicaments. Le premier, c'est le laboratoire AstraZeneca, deuxième laboratoire pharmaceutique européen et sixième mondial. Et sa présidente de France, Anne Lordreno, est notre invitée. Le deuxième, c'est la société biopharmaceutique française Cellectis et son président André Chulika est avec nous sur le plateau de Check-up Santé. Et pour compléter ce tableau, Éric Le Berrigo, directeur exécutif, responsable de la santé Europe chez Stifel. Check-up santé, c'est parti. Anne Lordreno, bonjour. André Chulika, bonjour.
Bonjour.
Éric Le Berrigo, bonjour.
Bonjour.
Alors, Anne Lordreno, donc, vous connaissez par cœur le laboratoire AstraZeneca, puisque vous y êtes depuis 18 ans.
Exactement. Je fête mes 18 ans, d'ailleurs, au mois d'avril.
Eh ben ça, vous voyez, ça tombe bien. Et vous dirigez donc la filiale France depuis l'année dernière, donc AstraZeneca qui fête ses 25 ans. Quelle est la place de AstraZeneca en Europe et dans le monde?
Alors vous l'avez dit, AstraZeneca c'est alors d'abord c'est un laboratoire anglo-suédois, donc qui est né de la fusion du suédois Astra et du britannique Zeneca il y a 25 ans, et qui est le sixième laboratoire mondial et qui est surtout, je dirais, s'il y a un mot pour qualifier AstraZeneca, c'est l'innovation. C'est vraiment le cœur de métier d'AstraZeneca, c'est amener des nouvelles options thérapeutiques, ouais. Toujours innovantes.
Et on va en parler dans cette émission.
J'espère bien. Et donc, ouais. C'est un laboratoire qui investit aussi énormément en recherche et développement. Donc, on réinvestit 20% notre chiffre d'affaires chaque année dans la R&D.
Et vous êtes principalement dans quelles aires thérapeutiques, même s'il y en a beaucoup?
Ah oui. Alors, c'est une des caractéristiques aussi d'AstraZeneca, c'est qu'on a des aires thérapeutiques assez larges, comme vous le dites, depuis la médecine de ville, donc par exemple des maladies chroniques, comme la maladie rénale chronique ou la BPCO, jusqu'à des maladies rares et en passant par l'oncologie. Donc vraiment un panel assez large d'aires thérapeutiques qu'on couvre.
Ouais, et AstraZeneca, c'est une boîte relativement mondiale, puisque vous êtes un petit peu situé partout, vous avez des sites de production partout, des sites de recherche?
Alors, c'est un laboratoire qui a 90 000 salariés, donc c'est très 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 gros. C'est effectivement présent dans 130 pays. On est très présent dans les marchés émergents, ce qui est aussi une des caractéristiques d'AstraZeneca. Et on a des centres de recherche. Alors on a trois centres de recherche principaux qui sont aux États-Unis, en Angleterre et en Suède. On retrouve évidemment l'empreinte historique, mais on a aussi d'autres sites qui se sont développés au cours du temps, donc que ce soit en Chine, aux États-Unis, dans différentes parties du monde.
Et vous disiez donc la recherche et développement, ça représente une grosse partie de votre chiffre d'affaires?
Tout à fait, oui. On réinvestit chaque année 20% de notre chiffre d'affaires, 11 milliards. Mmh. Et c'est vraiment un des axes très importants d'AstraZeneca, puisqu'on se concentre vraiment sur des maladies pour lesquelles il n'y a pas encore de solution. Donc c'est vraiment notre cœur de cible.
André Chulika? Oui. Que je connais depuis de nombreuses années.
Avec grand plaisir.
Vous êtes fondateur et président, directeur général de Cellectis, qui fête aussi ses 25 ans. Vous êtes docteur en virologie moléculaire, vous êtes membre du conseil d'administration de l'Institut Pasteur. Vous êtes un des pionniers, un des spécialistes mondiaux des méganucléases. Vous allez nous dire exactement ce que c'est leur rôle.
Alors, les méganucléases, en fait,
ciseaux moléculaires.
Oui, ouais. Tout à fait. À la base, c'est la découverte en fait de l'édition des génomes. C'est ce qu'on appellera peut-être l'ancêtre de l'édition génomique. Aujourd'hui, on entend très souvent parler de CRISPR-Cas9. CRISPR en général pour tout ce qui est édition génomique, mais ça a démarré dans les années 80 dans le laboratoire de Bernard Dujon à l'Institut Pasteur, avec qui j'ai travaillé, et à partir de là sont venues les idées d'édition de génome dans les années 90, et aujourd'hui Cellectis a été fondé sur le concept d'édition génomique. On n'utilise plus les méganucléases aujourd'hui, on utilise parfois CRISPR-Cas9, mais beaucoup plus fréquemment une technologie qui vient de l'Université du Minnesota qui s'appelle les TALEN, et on continue à avoir comme fondement en fait de cette édition de génome qui est à la base de toutes nos technologies.
Donc quand je parlais de ciseaux moléculaires, vous intervenez donc directement sur le génome?
Exactement.
Les chromosomes?
Tout à fait. En fait, notre métier, c'est programmer l'ADN, à l'instar d'un programmateur qui programmerait, par exemple, un software. C'est le software.
Ou d'un garagiste qui va réparer, qui va enlever une partie qui marche mal et remplacer par une qui marche bien ou pas?
C'est beaucoup plus compliqué, en fait,
j'espère,
d'être garagiste.
Hein, ouais.
Parce que ça, je ne saurais pas le faire. Ouais. En revanche, éditer un génome, oui, ça ressemble plus, en fait, à de la programmation génétique, comme un software, quelqu'un qui programme un software.
D'accord. Et vos développements cliniques sont surtout en oncologie ?
Alors aujourd'hui, on a essentiellement une franchise en oncologie et essentiellement en tout ce qui est tumeur liquide, lymphome, leucémie lymphoblastique aiguë, leucémie myéloïde aiguë, etc. Mais c'est très 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 ciblé.
Alors Anne Landreno, pourquoi vous êtes rapprochée de Cellectis ? Quelle synergie attendez-vous ?
Alors, AstraZeneca a identifié comme vraiment un des axes importants d'innovation à venir toutes les thérapies cellulaires. On travaille déjà beaucoup et on a créé quelques collaborations et investissements dans la partie thérapie cellulaire. On pense que ça va vraiment être une source d'innovation thérapeutique, notamment sur cancer, mais pas uniquement, maladies rares et aussi maladies auto-immunes. Et les technologies qu'ont développé Cellectis nous permettent en fait de complémenter l'arsenal thérapeutique qu'on a, complémenter notre recherche, pour nous permettre d'amener, enfin plus rapidement, on espère, en tout cas, un certain nombre d'innovations de thérapie cellulaire.
Donc c'est une collaboration synergique.
Absolument. En tout cas, je pense que de notre côté, très certainement, on pense que ça va vraiment nous permettre d'accélérer et surtout de développer ce qu'on appelle les thérapies cellulaires off the shelf. Donc c'est vraiment des thérapies qui vont nous permettre d'aller atteindre beaucoup plus de patients que ce qu'on peut traiter aujourd'hui avec toutes les contraintes qu'on a pour aussi bien le manufacturing que le traitement de ces patients.
J'ai la même question pour André Choulika. Donc cette participation d'AZ dans votre entreprise, c'est une bouffée d'oxygène ou c'est un cheminement naturel ?
Alors, c'est une bouffée d'oxygène, ça je ne peux pas le nier. On est très très fiers et très heureux de cette collaboration. Et en même temps, ça fait partie de la stratégie de la société. Parce qu'il y a tellement de potentiel dans la thérapie cellulaire et génique dans laquelle on est. On ne peut pas tout développer, on est une petite société. On a besoin effectivement de collaborateurs. Et une des choses qui était extrêmement intéressante au moment où j'ai rencontré le senior management de AstraZeneca, c'est ce qu'ils ont qui m'a beaucoup plu et vraiment séduit, c'est qu'ils ont une vision. C'est pas une vision genre
à court terme,
genre un an, 18 mois, etc. Non, c'est une vision qui est inscrite dans le long terme, avec une réelle volonté de pouvoir se développer dans ce secteur qui a un foisonnement de technologies potentielles et de thérapies. Et je pense qu'il va révolutionner la médecine moléculaire. Et ils veulent s'inscrire là-dedans. Et moi, je suis très, très heureux de faire partie de ce plan-là. Et alors, ce qui m'a vraiment étonné au départ, c'est que, bon, on est toujours un peu arrogant quand on a une petite boîte de biotech, toute l'innovation vient de chez nous.
Enfin, petite boîte, 25 ans quand même.
25 ans,
25
mais on reste quand
même. Combien de collaborateurs ?
On est 230.
Voilà, donc ça reste quand même un peu plus qu'une petite boîte.
C'est pas 90 000.
C'est pas 90 000, bien sûr. C'est pas 90 000.
Mais c'est la volonté. C'est un jour, j'espérerais peut-être atteindre ce stade-là, ce qui n'est pas impossible. Et au moment où on a commencé cette collaboration, moi j'ai eu en fait une sorte de choc à voir effectivement comment AstraZeneca est une boîte, comme on dirait, profondément innovante. Et les technologies qu'on partage sont très très innovantes de leur côté. Donc cette synergie existe vraiment. On n'a pas tout apporté.
Et c'est une collaboration donc, qui va durer, puisque vous parlez de long terme, qui va durer quelques années. Alors, on imagine.
On l'espère. Hein. Je pense que c'est ce qu'on a annoncé. On a déjà identifié un certain nombre de candidats, de médicaments candidats. Et donc, on est en train de développer ces médicaments. Puis, on va voir au fur et à mesure les résultats qui vont en sortir. Mais on pense que c'est une collaboration de très long terme.
Vous parliez de cette vision, hein, de l'innovation. Donc, c'est un peu votre président Monde qui a un petit peu donné cette pulsion, non ?
Alors,
qui a su. À l'inverse, d'autres laboratoires qui n'ont pas su prendre ce virage.
Oui. Alors, c'est sûr que Pascal Soriot a fait une énorme différence pour AstraZeneca. Si on regarde d'où on vient il y a 12 ans et où on est aujourd'hui, c'est clair qu'il a fait une très grande différence. Et puis aussi avec tout le set, on a vraiment une équipe de management qui est, je dirais, très très inscrite dans cette vision, qui a participé au développement de cette vision et qui est vraiment vraiment focalisée sur la science et amener des innovations. Donc ça, c'est quelque chose d'important et qui a identifié justement les thérapies cellulaires comme la prochaine révolution thérapeutique. Donc c'est vraiment là qu'on veut s'inscrire.
J'ai une anecdote à ce propos-là sur Pascal Soriot qui est assez amusante. C'est au moment où on faisait en fait cette collaboration avec AstraZeneca, les gens travaillaient énormément. Et de notre côté, moi je pense qu'on est des gros bosseurs, etc. Et je voyais les équipes d'AstraZeneca, c'était des bosseurs incroyables. Je leur dis, mais comment vous faites ? Vous arrêtez jamais, etc. Ça vient d'en haut.
Ça vient de où? D'accord.
Pas vrai.
Éric Le Bérigaud, donc vous êtes directeur exécutif chez Stifel. Vous connaissez bien le secteur de la pharma depuis de nombreuses années. Vous côtoyez ce secteur. Stifel, c'est une banque, c'est ça, non?
Oui, tout à fait, américaine.
Oui.
Oui.
Alors, vous êtes analyste financier, donc vous conseillez principalement l'industrie pharma hein, sur les en investissement. Comment voyez-vous justement vous quel œil vous avez sur ce rapprochement?
Alors sur le point que vous venez d'aborder, c'est vrai que Pascal Soriot il est assez impressionnant parce que c'est le seul CEO qu'on voit dans tous les congrès médicaux. En fait, il passe ses week-ends dans les congrès. Donc vous avez des petits hubs hein, dans les congrès, des labos. Et puis au centre, il y a une petite pièce fermée. Et il passe ses week-ends à voir des médecins localement préparer le coup d'après. Et c'est vrai que
l'ADN, il est dans la vraie vie, quoi. Il est dans la vraie vie.
Ah, il est dans la vraie vie. On pourrait dire, il a le même job que, enfin, dans chaque labo, il y a quelqu'un qui a le même job. Et malgré tout, on voit pas exactement la même chose. On voit pas un CEO dans chacun des congrès sur place. Enfin, on le décrit beaucoup en bras de chemise avec son sac à dos, faire le tour des labos de R&D. Donc, je pense qu'il vit ça et après 10 ans, manifestement toujours. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très très marquant dans le secteur.
Donc, concernant ce rapprochement.
Et alors concernant ce rapprochement, effectivement pas très surprenant parce que cet ADN d'innovation, on le ressent énormément et dans la valorisation d'AstraZeneca, c'est quelque chose qui est totalement reflété. C'est-à-dire qu'il y a une prime à ce positionnement, à partir sur des nouvelles plateformes technologiques, celle-ci mais un certain nombre d'autres, hein, on pourra en citer quelques-unes, et dans l'oncologie particulièrement. L'accord avec Daiichi il y a quelques années, c'était aussi quelque chose qui avait surpris, beaucoup d'argent, et avec le recul, finalement, on dit que c'était un coup génial. Sur les bispécifiques, on a une réunion qui arrive bientôt, et ils vont nous développer ça beaucoup plus précisément. Je pense que cet accord fera partie de ce qui sera présenté. C'est un marqueur fort d'Astra dans le contexte européen de la pharma.
Alors, d'une manière générale, donc, comment le marché ou les investisseurs considèrent AstraZeneca par rapport aux autres laboratoires?
Alors,
il faut... S'il y a une spécificité.
En fait, d'un point de vue investment case, si je peux le présenter comme ça, en fait, il y a jusqu'à il y a pas longtemps, il y avait la double particularité d'être une valeur en forte croissance, tout en ayant opéré un retournement quand même extrêmement fort. On en parlait tout à l'heure par rapport à il y a 12 ans. C'est vrai que le mouvement Pascal qui quitte Roche, qui est à l'époque une des darlings du secteur, pour rejoindre AstraZeneca, qui est vraiment très loin dans les rankings, c'est une grosse surprise. Et donc, on est tous un petit peu interloqués. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a ressenti? Et le revirement qui a eu lieu depuis, et donc cette décennie, ça a mis quelques années à se mettre en place. Mais aujourd'hui, la place qu'occupe AstraZeneca, en tout cas à l'échelle européenne, moi, c'est un peu mon prisme, hein, c'est essentiellement à l'échelle européenne que je regarde les choses. C'est une société qui a installé, structuré les choses de manière à durer. Parce qu'une des grandes questions, c'est la succession aussi du CEO. Mm-hmm. Je pense qu'aujourd'hui, il a beaucoup moins l'inquiétude parce qu'il a fait venir des talents incroyables. On voit bien d'ailleurs le départ de certains vers AstraZeneca, que ça correspondait à un basculement dans les rankings. Et puis la capacité à être très alerte pour aller chercher la technologie manquante en interne chez un certain nombre de partenaires, ne serait-ce que sur le début de l'année. Je pense qu'il y a eu 2-3 opérations un petit peu marquantes. Donc ça c'est ce qui fait la différence principalement d'Astra par rapport aux autres.
Anne-Landreno, donc nous dans le monde de la cardio, on a l'habitude de vous appeler AZ, mais on va dire AstraZeneca aujourd'hui.
De A à Z, oui.
Voilà. Vous avez été partenaire des Grands Prix de Check-up Santé, on vous en remercie. Vous avez d'ailleurs remis le trophée de la e-santé à une start-up. L'innovation donc n'intéresse pas que les médicaments.
Alors, c'est surtout qu'on ne se concentre pas que sur l'innovation en médicaments. On est aussi très, très investi dans tout ce qui est innovation liée à la tech, l'intelligence artificielle et les données de santé. Donc ça, c'est aussi une des choses sur lesquelles on se focalise. On pense que ça va permettre d'amener aussi des synergies. Alors, évidemment, dans la recherche, par exemple, l'intelligence artificielle dans la recherche et le pour accélérer un certain nombre de processus, ça a une place évidente. Mais aussi, dans une filiale commerciale, on voit que ça va va nous aider, par exemple, et vous citiez donc Clinéo qui a reçu le prix, ça va permettre de mettre en contact en fait les bons patients avec les essais cliniques en rendant visibles les essais cliniques. Donc il y a toute une série d'innovations à laquelle
vous avez créé ce titre, le hub innovation.
Exactement, le InnoHub. Exactement. Ouais. Et donc en fait, on a des équipes qui vont se focaliser sur en permanence regarder dans le marché quelles sont les grandes évolutions, les nouvelles technologies qu'on pourrait utiliser dans l'écosystème français et qu'on pourrait appliquer à certaines de nos aires thérapeutiques pour accélérer soit la prévention, la détection très tôt ou éventuellement, bah, comme je le disais, la mise en relation des patients et des essais cliniques.
Très important, toujours le patient au centre
absolument.
De la chaîne.
Absolument, c'est une de nos valeurs absolues.
André Schulker, donc vous avez des bureaux aux États-Unis, à New York et à Raleigh. Vous êtes coté Euronext, Nasdaq, mais votre siège social est à Paris. C'est pas, malgré cette puissance américaine, c'est pas compliqué de rester à Paris.
Bah, on a vu.
Malgré l'attraction incroyable, l'élément que peut constituer les États-Unis.
Bah, en fait, premièrement, la place parisienne, au niveau cotation, etc., c'est historiquement sélectif, c'est installé ici. Et puis, c'est-à-dire, la biotechnologie a une très forte traction aux États-Unis. C'est pas des bureaux qu'on a là-bas, c'est des laboratoires de recherche à New York et un site de fabrication pour des produits en fait pour faire des essais cliniques mais aussi commercial qui se trouve en Caroline du Nord.
Mais Selectis reste une boîte française.
Mais Selectis reste une boîte française en fait, l'équipe s'est constituée ici et ce que je trouve d'extraordinaire en France, hein, c'est les équipes. On a des équipes extrêmement puissantes, très très bien soudés, qui se connaissent bien. Certains sont là quasiment depuis l'histoire de la boîte, qui connaissent l'histoire dès le début. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui change complètement la donne, parce qu'une équipe qui se connaît bien, qui sait se battre ensemble, qui a fait face à des tas de difficultés, est beaucoup plus forte. Et c'est ça, en fait, une des grandes forces de notre société aujourd'hui.
D'accord, mais vous n'avez jamais été sollicité par les US pour être à 100% aux US, non?
Ah mais j'y vais très très souvent, c'est-à-dire pour moi, être à New York, à Raleigh ou à Paris, c'est quasiment pareil, hein. Je dirais pas que je vis dans un avion, ce qui est loin d'être le cas, mais je me sens aussi... En fait, j'ai une particularité, c'est que je me sens partout chez moi.
Tant mieux. Éric Le Berrigoquet, quelle est la place de la France dans le monde de la santé, de sa politique industrielle? On parle de Startup Nation, c'est pas un peu prétentieux, non? Sur le plan de la santé? En quelques phrases.
Du point de vue de l'investisseur, la France, c'est quand même relativement petit. C'est vrai que ça a eu tendance, alors vous le disiez tout à l'heure, moi je suis analyste depuis 27 ans, donc ça donne un petit peu d'historique. J'ai eu quand même le sentiment qu'elle avait un petit peu reculé sur les dernières années. Il y a de plus en plus de laboratoires quand même qui polarisent beaucoup entre les États-Unis et le tandem Chine-Japon. Et lorsqu'on parle d'Europe, maintenant... en dehors de l'Allemagne, c'est quand même difficile d'identifier la France en tant que pays. Voilà. Ouais. Donc, y compris dans le reporting des chiffres, hein, c'est extrêmement difficile de savoir ce que fait un produit en France. Et donc, il faut effectivement redoubler.
Donc, sur le marché européen, la France n'est pas un lead comme l'Allemagne, non? Quand même
Non, ouais. dans la plupart des grands labos, il y a l'Allemagne et le reste de l'Europe.
Anne-Laure Drénaud, donc on disait AstraZeneca a investi 11 milliards de dollars en 2023 pour votre recherche et développement. Qu'est-ce qui fait que pour vous que la France soit attractive et que la filiale France soit importante pour sa maison mère?
Alors, je pense que l'une des caractéristiques de la France, c'est sa qualité scientifique, hein, et je pense que, bah, voilà, on vient d'en parler. Il y a un tissu quand même de biotech, vraiment une qualité académique, scientifique, de recherche qui reste quand même remarquable. Donc ça reste un des atouts majeurs de la France et c'est ce qui donne son attractivité. On a parlé de Selectis évidemment. On a aussi conclu un autre accord récemment avec un projet d'investissement avec une autre biotech française. Donc ça, c'est le signe de cette vitalité, je dirais, du tissu de biotech français. Après, en termes d'attractivité, quand on parle de la France, il faut évidemment regarder plus généralement, au-delà de la science, c'est aussi les conditions économiques, c'est les conditions industrielles. Et là, il reste encore pas mal de choses à faire.
Oui, c'est vrai, André, donc la France a un dynamisme au niveau de sa recherche scientifique, mais on a l'habitude de dire, mais ça ne suit pas après.
Je dirais pas ça, en fait.
Au niveau des investissements.
Non, ça suit. C'est-à-dire, c'est pas. C'est-à-dire, il y a une recherche scientifique de très très bonne qualité. Moi, ce que je trouve absolument exceptionnel en France, c'est son réseau de médecins chercheurs. Et sa médecine. Elle a une médecine en particulier en oncologie. Nous, on fait des essais cliniques en France que je trouve exceptionnels.
Oui, mais le nerf de la guerre, c'est hélas l'argent aussi, non ?
Alors, le nerf de la guerre reste l'argent. C'est pas ici qu'on le trouve en masse. Parce que, c'est-à-dire, quand on lève 1 euro en France, on en lève 10 aux États-Unis, voire 100. Donc, on se bat pas avec les mêmes armes. Et malheureusement, les chiffres sont têtus. Développer, par exemple, un produit en immuno-oncologie, ça prend de l'ordre de 15 ans de la découverte, du moment où on découvre le produit jusqu'au moment où on le met sur le marché. Et deuxièmement, ça coûte de l'ordre de 1,5 milliard, 1,7 milliard à développer. On ne va pas développer un produit avec 5 millions, 10 millions, 25 millions. On se leurre complètement. On a tout ce qu'il faut, le tissu est là, etc. Il faut simplement que nos politiques comprennent une bonne fois pour toutes que si on n'y met pas l'intensité capitalistique parce qu'on est dans un monde concurrentiel, on ne va pas y arriver. Saupoudrer, ça ne marche pas. Ou alors dire, ah, on va essayer de réintégrer la souveraineté française et commencer à fabriquer des produits qui n'ont absolument aucune valeur ajoutée parce qu'ils sont complètement génériqués et fabriquer des usines finalement qui n'ont aucun intérêt. Il faut capitaliser sur l'innovation.
Oui, je me rappelle d'Agnès Buzyn qui était venu dans l'émission et me disait qu'ils avaient consacré 50 millions d'euros pour l'intelligence artificielle. Je lui dis, oui, ça tombe bien, la Chine vient d'en consacrer 1 milliard il y a quelques années. Donc, est-ce que il y a des freins quand même un peu à l'innovation en France, donc c'est des freins peut-être administratifs, de fiscalité aussi ?
Oui, alors ça dépend ce que vous regardez, mais comme je disais, c'est à partir du moment où vous voulez encourager l'innovation, il faut que vous ayez, alors bien sûr, un écosystème de recherche, on en a parlé, mais aussi un système économique, une rentabilité économique pour les industries qui doit être là et qui aujourd'hui est pas là. Donc on peut parler évidemment de prix, mais également de fiscalité. Et de la même façon sur le côté production, alors il y a des efforts qui ont été faits quand même. Hein, je pense que les taxes de production ont quand même diminué, mais ça reste quand même un sujet.
On parle de cette clause de sauvegarde, non ?
Alors ça, c'est sur la partie économique, oui. Il y a les industries pharmaceutiques sont particulièrement pénalisées par un mécanisme de régulation depuis 3 ans, la clause de sauvegarde, qui pèse énormément, en fait, qui représente une taxe supplémentaire aujourd'hui sur les ventes en France.
C'est-à-dire qu'un labo qui marche trop bien, donc, doit payer plus de taxes, c'est ça ?
Alors, oui, c'est grosso modo en fait une partie de cette clause de sauvegarde qui est en fait une remise qu'on va devoir faire va être liée à la croissance du laboratoire. Donc évidemment, quand un laboratoire comme AstraZeneca qui amène beaucoup d'innovation et qui est en forte croissance va évidemment être plus impacté.
Et donc ça peut limiter aussi l'innovation, la recherche, etc. Quoi. Éric Le Berrigaud, donc même question. Est-ce qu'on ne récompense pas les bons élèves en France ?
Ça paraît assez clair, oui. Chaque système de santé a ses avantages et ses inconvénients. On critique beaucoup et il y a plein de moyens de le faire, le système américain. Mais en tout cas, on ne peut pas nier qu'il est très pro-innovation et qu'au contraire, on cherche à accélérer l'accès au marché des produits les plus innovants. On n'a pas l'impression que la France ait pris ce même angle. Voilà. Et on sanctionne plutôt...
Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce qu'on devrait faire ? En deux phrases.
À la limite, c'est peut-être taper plus fort sur les produits les plus anciens. Peut-être qu'il faut s'interroger aussi sur l'accès gratuit à la santé, c'est-à-dire si c'est pour avoir accès aux produits qui sont pas les meilleurs à l'instant T, il faut peut-être se poser la question de la durabilité de ce principe-là. En tout cas, on entend de plus en plus remonter de la part de médecins de spécialités différentes le fait qu'ils sont frustrés de pas avoir accès au dernier produit qui est accessible dans un certain nombre d'autres pays. Ça, c'est un vrai sujet.
Anne-Laure, on va terminer quand même par une note positive. Je sais que vous avez un pipe gigantesque sur les nouveaux produits à venir.
Absolument.
À court, moyen, long terme.
Exactement. Donc on a aujourd'hui 178 projets de développement. Donc potentiellement des molécules ou des options thérapeutiques qui vont arriver. Donc oui, c'est énorme. Dans toutes les aires thérapeutiques que j'ai mentionnées.
Dans toutes les aires thérapeutiques que vous avez, d'accord.
Absolument. On couvre vraiment toutes les aires thérapeutiques. Ouais. Donc c'est beaucoup d'espoir pour des patients.
Oui, et dans un avenir proche, court, moyen, long terme ?
Alors, je vais décrire peut-être l'ambition à 2030.
Sans dévoiler, sans donner de
scoop. Non, mais ça, on peut le dire, ouais. On peut le partager quand même. On a une ambition d'ici 2030 qui est d'amener 10 nouveaux médicaments d'ici 2030. Donc, c'est quand même très, très conséquent. C'est plus de 2 par an. On en a déjà sorti 2 l'année dernière. Voilà. Donc, c'est vraiment un rythme important et ça couvre vraiment toutes les aires thérapeutiques, comme je l'ai dit.
Mmh. André Choulika, donc justement avec AstraZeneca, donc des produits vont sortir.
Ah bah, je pense que oui.
Ah, vaut mieux.
Absolument. Oui. C'est-à-dire le démarrage, ça a démarré sur les chapeaux de roue. Oui. Je pense qu'on a des innovations absolument disruptives qui vont arriver. Alors, je demande un tout petit peu de patience, le temps qu'on puisse avancer là-dessus.
Ça veut dire quoi, un peu de patience?
Un peu de patience, c'est-à-dire
un an, deux ans, cinq ans, dix ans.
Un an avant de commencer à voir plus d'un an, je dirais, avant de commencer à voir peut-être comment les choses peuvent se développer. Mais oui, j'ai beaucoup beaucoup d'espoir là-dessus, non seulement par Cellectis tout seul, mais aussi dans cette collaboration d'AstraZeneca avec une disruption totale du marché.
Eh bien, merci André Choulika, merci Éric Le Berrigaud, merci Anne-Laure Drano et bravo pour ce que vous faites. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.